proposé, c'était le dérèglement esthétique, une analyse sur nos espaces virtuels et physiques du quotidien. Mais ça se portera peut-être, enfin, ça se portera sur le dérèglement, mais surtout sur la façon dont on regarde nos espaces et dont on appréhende, en fait, c'est l'esthétique qui nous entoure, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux, en fait. Du coup, c'est parti, en fait, d'une réflexion sur pourquoi on va avoir plus tendance à accepter, pas forcément vous, mais dans les débats publics, on va avoir plus tendance à accepter la publicité plutôt que les tags, en fait, avec une réaction plutôt violente au niveau des tags qui sera « Ah là, ça salit l'espace », alors qu'il n'y a rien de négatif à ça et que ça n'empêche en rien de se déplacer. Et du coup, moi, ce que je me suis dit, c'est que les espaces étaient devenus tellement balisés entre des déplacements d'un point A à un point B, qui, avec des publicités régulières le net, avec des logiciels très simplifiés qui nous permettent une accessibilité très rapide, mais à la fois avec un certain désapprentissage de l'outil et un désapprentissage aussi de la façon de voir. Et ça, c'est une question que aborde Bernard Stiegler en parlant de la prolétarisation du regard. C'est-à-dire, comme la prolétarisation, c'est priver un sujet, qu'il soit producteur, consommateur ou concepteur, de ses savoir-faire, de ses savoir-vivre, en tout cas de ses savoirs en général. C'est qui vient de la prolétarisation, qui vient du terme de Marx par rapport aux classes prolétaires qui, du coup, perdaient leur savoir-faire avec le séquençage industriel de leur mode de production. Et donc, pour revenir à ça, il y a une simplification, il y a une sorte d'algorithme général sur le net, par exemple, ou même juste de régularité de la publicité qui est constante et agressive sur nos chemins. Pour ça, pour moi, il y a une sorte de dissolution de l'apprentissage du regard. C'est-à-dire qu'avant, on construisait... Enfin, avant. C'est pas en avant général, mais le regard se construit. On apprend avec nos codes sociaux, avec le territoire d'où on vient. Ça construit la façon dont on sait voir et dont on analyse les images qui nous entourent. Et en fait, il y a une nouvelle... Le balisage, il vient de l'économie libidinale, en fait. L'économie libidinale, ça vient de l'utilisation de la libido dans l'économie pour nous faire acheter. C'est un concept freudien sur la libido, qui est du coup nos envies, ça se rapporte à l'appétit sexuel, mais aussi à juste le fantasme, la construction du fantasme, la construction d'un désir. Et l'économie libidinale, elle va détruire le fantasme pour le transformer en pulsion. Et du coup, essayer de transformer notre consommation en pulsionnelle, et au même titre que notre consommation est prolétarisée, notre regard l'est. Du coup, cette façon de produire des images qui est de plus en plus répandue, on pourrait se dire que c'est dans l'espace réel, ce que j'appelle l'espace réel, c'est l'espace de nos déplacements. Je sais pas si j'arrive à être claire, vous me dites si ça devient pas assez clair. Mais ça s'inscrit dans nos maisons, c'est-à-dire avec la télévision, si on regarde, il y a une sorte de matraquage sur des avec les publicités qui passent tout le temps, qui vont être répétées toutes les 10 minutes sur des... Ça, je vous apprends rien de nouveau, c'est quelque chose de vraiment... Et ces publicités, ce qu'il y a de très... pas novateur, puisque ça a toujours été un peu comme ça, mais elles absorbent de plus en plus nos identités. Et dans nos façons de concevoir, quelle que soit notre identité, ils vont récupérer, qu'on soit femme, par exemple, avec la fête des mères, que ça soit une question d'orientation sexuelle, avec des publicités qui vont aller viser des communautés LGBTQI+, ou que ça soit les personnes qui sont racisées, qui vont être de plus en plus montrées dans les publicités. Mais c'est pas tant que... Enfin, on pourrait se dire, oui, c'est chouette, on est tous représentés dans les publicités, sauf que ces publicités, elles vont... Enfin, là, je vais citer un livre, c'est La surveillance des lucioles, qui est un livre, franchement, je vous encourage à le lire, qui parle juste...
Hein ?
Si vous voulez, tenez. Je fais passer les bouquins, comme ça vous pouvez les voir et en profiter un peu. C'est qu'il y a quelque chose de très important dans cet imaginaire qui est utilisé, au même titre que nos regards qui se construisent. Ce regard-là, il vient de notre imagination, comme je l'ai dit. Et l'imagination, ce que dit Didi Huberman dans ce livre, est politique. Et s'il faut s'en prendre conscience et en prendre les mesures. Et du coup, dans ces nouvelles identités qui étaient totalement rejetées et qui se sont construites en tant qu'individus politiques et qui ont réclamé les droits auxquels ils sont droits, justement, qui, avec une construction politique sur l'histoire, maintenant sont absorbés dans ces publicités pour juste faire de la vente. Genre, je vais vous montrer un exemple. C'est... Alors, on va avancer un peu. Donc, le son n'est pas très important, il faut juste se concentrer sur l'image. Déjà, elle est extrêmement lissée, très colorée, elle correspond à l'esthétique qui a émergé qui se récupère un peu les années 90. C'est-à-dire, c'est dommage qu'on n'ait pas le son, parce que tout le narrateur va nous raconter qu'en étant jeune, en étant différent, en fait, c'est cette marque-là qu'il faut acheter pour être comme ça. Et c'est pas l'inverse, c'est pas juste une représentation, c'est vraiment une absorption de la différence dans une vente, dans une consommation qui est différente. Je sais pas comment expliquer ça, c'est vraiment... On le voit se multiplier, par exemple, avec les pubs de Nike, qui fait des pubs urbaines en mettant de plus en plus en avant des personnes racisées. C'est une façon d'absorber le regard qui se construit et de le réutiliser, de le lisser et d'enlever sa portée politique aux individus qui pourraient se réaliser et réclamer leurs droits, en fait. Enfin, de mon point de vue, cette esthétique qui devient si lisse, elle implique aussi cette pensée-là politiquement. Puisque c'est pas nous qui produisons ces images, en fait. C'est une grosse entreprise qui produit cette image de ce que est, ce que sont et ce que nous sommes en tant qu'autres. Et à contrario de la multiplication des publicités représentant des personnes dites, enfin, que j'avais appelées différentes, on n'a pas de plus en plus, enfin, même si y a des percées et des choses comme ça, on n'a pas autant de production de personnes concernées au niveau des films, au niveau des courts-métrages, des séries, de la littérature. Du coup, c'est vraiment comment absorber nos identités. Je vais reciter la survivance des Lucioles de Didier Huberman, du coup. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie culturelle s'est saisie des corps, du sexe, de l'éros, injectés dans les circuits de la consommation. C'est récupérer nos codes pour nous les reproposer, en fait. Et cette façon-là de produire des images à partir de ce qu'on pourrait nous-mêmes construire, proposer, inventer, du coup, justement, pour revenir sur la thématique du tag, c'est-à-dire que le tag, c'est l'inscription de pensées, de dessins, de choses comme ça, qui sont sauvages et qui ne sont pas forcément contrôlées, à part quand c'est par les mairies ou les choses comme ça. Mais sinon, c'est vraiment directement donner son avis et l'imposer un peu aux autres. Et c'est une production symbolique personnelle et non pas faite par des gros groupes. Et ça, c'est en opposition. Du coup, ce lissage esthétique de nos quotidiens, il vient imposer la non-expression. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Du coup, je voudrais vous montrer autre chose, parce que entre l'absorption de nos identités, il y a aussi l'absorption de nos histoires. Et ça, l'histoire, c'est intéressant. C'est parce que les histoires, et surtout ce que Walter Benjamin a appelé mythe et mythologie. Le mythe, c'est quelque chose qui va s'inscrire du côté du symbole et qui va être vraiment très dur et qui va être une sorte de figure d'autorité pour nous. Et la mythologie, c'est la composition c'est des structures fondamentales pour déchiffrer la vie, des supports pour la compréhension du présent. Donc, ce sont des dispositifs narratifs qui vont nous permettre d'appréhender ce qui va être autour de nous, de comprendre et de se construire, que ce soit symboliquement ou même juste, enfin, symboliquement, notre identité et tout. Et du coup, cette histoire, elle est aussi récupérée par le monde de la publicité. Autant il y a l'histoire officielle politique qui va nous être dictée, qui va sûrement nier certaines parties, par exemple au niveau de l'esclavagisme ou des périodes colonialistes, c'est pas des choses qui sont vraiment enseignées à l'école et des choses comme ça. Mais encore plus profondément, par exemple sur la question de la sécurité sociale, on a une magnifique pub de la Caisse d'épargne qui nous montre un jeune homme qui traîne en plein milieu du début de l'industrialisation et qui nous explique que la vie est dure, que le travail c'est du sang, mais c'est aussi du danger. Et puis que généreusement, la Caisse d'épargne a créé le premier système de sécurité sociale, en gros. Et cette publicité est vraiment intéressante, elle est sortie pour le bicentenaire, mais c'est une sorte de retravail de l'histoire, en fait. C'est-à-dire que la banque prend le rôle de ce que, historiquement, nous avons construit avec des luttes pour obtenir des droits à la sécurité sociale par Ambroise Crasat. Je vous invite à aller regarder des conférences sur ce sujet-là. Franchement, en point se creuser à la sécurité sociale, vous tombez sur plein d'informations très intéressantes sur ce droit qui est le nôtre et qui est en train d'être détruit d'ailleurs.
Le film La Sociale, il est vachement
bien. Ouais, La Sociale aussi par exemple. Mais il y a aussi c'est la conférence de. La conférence de Frio sur la sécurité sociale, elle est vraiment très complète, puis c'est une conférence de sujet, du coup elle est très intéressante. Et du coup cette histoire, elle est récupérée avec des clichés historiques qui sont là pour servir à un discours plutôt politique, parce que cette pub est arrivée quelques mois avant des nouvelles réformes sur la sécurité sociale, donc bien sûr c'était pour nous apprendre à capitaliser pour bien s'en sortir. Parce que franchement, c'est comme ça qu'on a commencé, alors pourquoi on arrêterait tout de suite? C'est vraiment les identités ou l'histoire collective, ils sont récupérés, réanalysés et redonnés avec une esthétique dominante et imposée parce que c'est très sinueux, mais du coup ça nous donne ça. Alors on pourrait se dire qu'avec les nouvelles technologies, le fait qu'on puisse tous accéder plus facilement à la production d'images, à la production de contenu, et du coup produire de nous-mêmes nos propres symboles encore, ça pourrait se changer. Mais là aussi, il faut faire attention parce que le balisage esthétique continue sur les logiciels. On peut regarder Facebook qui est vraiment ce fil d'actualité algorithmique qui va nous proposer des publicités très régulièrement et de plus en plus. YouTube qui s'y est mis aussi, en séquençant ces vidéos pour augmenter la monétarisation. YouTube et Instagram, ça va être deux gros exemples que j'aimerais vous parler parce que c'est l'évolution de la publicité et l'évolution de l'esthétique générale. Parce que YouTube et Instagram vont avoir le mouvement des lifestyles. Vous voyez tout ce que c'est des influenceurs, des influenceuses qui commencent par être des gens lambda et qui vont proposer des modes de vie. Et ces modes de vie, même s'il y en a certains qui sont intéressants, si on ne sait pas regarder et qu'on n'apprend pas à regarder, des fois, la publicité s'est glisse à l'intérieur, et des fois, on n'a même pas précisé. C'est-à-dire que on est censé obligatoirement préciser si on met des publicités dans nos contenus. Mais maintenant, il y a une nouvelle façon d'échapper à ça, par exemple, avec les jeunes femmes et les jeunes hommes qui vont se prendre en photo sur Instagram, c'est qu'on, des fois, ils proposent très tôt dans leur fil d'actualité des logiciels qui te permettent de regarder comment ils sont habillés et comment récupérer les mêmes vêtements pour pouvoir leur ressembler et du coup correspondre à ce style de vie. Et on va même plus loin avec des gens qui suivent se filmer au quotidien, poser une à deux vidéos par jour, ce qui est un rythme relativement intense quand on sait comment on produit une vidéo, qui vont être totalement plongés dans cet espace numérique, ils vont exister totalement par ça, puisque leurs abonnés vont leur réclamer ces vidéos. D'ailleurs, c'est l'un des plus gros sujets de dispute entre les abonnés et les producteurs de vidéos. C'est-à-dire ils ne vont jamais assez vite, il y a beaucoup de réclamations là-dessus. Et cette confusion entre intimité et fiction, avec l'introduction de publicité, ça continue dans cette idée de d'appropriation de l'identité. Parce que ce sont des personnes derrière ça qui sont vendeuses Elles sont vendeuses, mais à la fois c'est de l'intimité qu'elles proposent. C'est des cafés entre amis, c'est des choses comme ça, mais qui au final sont juste là pour... Donc de mon point de vue, c'est une proposition d'être bien-être par la consommation. Et ça, le bien-être, il peut être hors de consommation. Être influenceur, ça ne veut pas dire forcément... en tout cas, influencer, ça ne veut pas forcément dire influencer dans le sens commercial. Et au-delà de justement YouTube et Instagram, il y a aussi la question dans la production d'images, des filtres. Que ce soit les filtres Snapchat, les filtres Instagram, je sais pas où ils existent tous, franchement je suis pas assez... Mais ces filtres-là, ils sont politiques aussi, parce qu'à côté, on a une super production avec ces identités autres qu'on vous présente dans la consommation, et en même temps, dans ces logiciels, on va vous proposer des filtres blanchissants, des filtres où on agrandit les yeux, des filtres amaigrissants, des filtres embellissants, mais qui correspondent toujours à des codes normalisants, en fait. Et le flux de nos productions se retrouve à être contrôlé de cette façon par ce balisage esthétique qui reste toujours aussi lisse et qui reste aussi matraquant quand on ne sait pas se servir de l'outil. Parce qu'on utilise YouTube, qu'on utilise Facebook, qu'on utilise Instagram, à aucun moment il nous propose de comprendre et de rentrer dans le code, et ni il ne nous propose jamais de comprendre l'algorithme qui nous permet de sélectionner nos amis, ou qui nous propose les algorithmes qui nous proposent en général. Ils ne sont jamais explicités, il n'y a que des chercheurs qui arrivent, dont c'est les sujets de recherche, qui arrivent à les analyser. Par exemple, c'est quoi ce site de rencontre déjà, adoptunmac.com, qui était sorti le gros dossier où une chercheuse, j'arrive pas à m'en souvenir de son nom, qui a montré qu'en fait, il y avait un système de points derrière ça, et en fonction de son genre, en fonction de son orientation sexuelle, on avait des points et des malus qui correspondaient, par exemple, à une femme, si elle avait des diplômes, enfin beaucoup de diplômes, elle allait avoir des points malus, en fait, et qui restaient dans une vision normative des relations amoureuses. Du coup, malgré la surproduction qu'on peut faire et tout ce qui nous est proposé en tant que créateurs nous-mêmes, cette machine libéraliste et capitaliste arrive quand même à s'implanter dans nos propres moyens de production. Du coup, cette prolétarisation du regard, cette prolétarisation du savoir-faire, elle arrive par ces moyens-là, parce que ça nous empêche d'appréhender nos propres temps. C'est Stiegler qui parle justement du jaune de Van Gogh. C'est des lettres qui se sont échangées entre Van Gogh et son frère Théo, où il parlait du jaune de ses tableaux. Et à propos de ce jaune, du coup, il y a eu une exclamation. Il y a eu une exclamation, et du coup, ça a devenu une sorte de symbole commun, avec une référence sur laquelle on a pu disserter. C'est pour ça qu'il y a eu des... Je suis désolée, je me perds un peu. C'est des symboles, des moments, des petites choses comme ça qui font qu'on peut disserter autour de ces symboles-là. Que ce soit ça, ou juste quand on voit un mégaphone, ça va nous rappeler la grève ou des choses comme ça. Par exemple, ce mégaphone, il a été réutilisé dans des pubs de banque aussi. Et pour nous dire, oui, on est sociaux, nous aussi, alors que c'est... Je crois que c'était encore la caisse d'épargne qui avait fait ça. Et donc, ce désapprentissage, il est inscrit là. Et surtout qu'en plus, ces outils arrivent de plus en plus tôt dans les mains d'enfants qui apprennent à créer, qui sont dans une phase d'éveil, dans une phase d'identification et d'individuation, qui sont dans l'étonnement constant, parce que l'enfance, c'est un moment où on commence à définir les codes, et puis à savoir qui on est en tant qu'individu, définir un je et définir un nous. Et c'est comme ça qu'on peut se construire dans une société avec les liens sociaux et même son environnement. Sauf qu'en mettant des outils comme ça dans les mains de jeunes enfants et même d'adolescents, on en arrive avec des dérèglements esthétiques qui peuvent être de plus en plus grands, puisque c'est de la publicité, c'est de l'apprentissage à la publicité pure qu'on leur donne. En tout cas, ça, c'est un point de vue personnel. Mais juste, du coup, pour conclure, j'aimerais juste faire une sorte de sortie sur les algorithmes politiques, parce que ça encore, c'était hier, je me suis rendu compte, alors que je passe tous les jours devant, qu'il y a ces nouvelles affiches qui parlent de liberté, égalité, fraternité, mais aussi de laïcité, quelque chose qui n'est pas du tout... C'est vraiment... qui s'inscrivent dans nos quotidiens, qui sont là, qui sont censés être là pour qu'on s'entende mieux et tout ça, mais il y a une sorte de violence du matraquage qui ne devrait pas passer juste par dans des espaces où on ne fait que bouger, qui devrait... C'est des discussions, c'est des débats, c'est de la construction symbolique, c'est de la construction sociale pour faire un tissu social. Et c'est pas juste en mettant des affiches qu'on va régler quoi que ce soit, mais c'est cette propagande qui est de plus en plus présente, qui s'allie avec la politique de notre gouvernement, mais qui s'inspire beaucoup des grosses industries qui sont présentes, en fait. C'est ce soutien. Et politiquement, avec les algorithmes YouTube, maintenant, on arrive à avoir des fils d'actualité sélectionnés. Et d'ailleurs, là, c'est en discussion, il me semble. J'aimerais que vous concluiez là-dessus, et puis après, je vous laisse la parole, désolée. C'est... Facebook est en pourparlers avec le gouvernement pour c'était quoi la formulation? C'était pour les contenus politiques extrêmes?
Terroristes
Ouais, je crois, c'est mais terroristes, mais ça comprend aussi les terroristes politiques. Du coup, Facebook, au lieu de se retrouver à devoir se mettre se retrouver devant le tribunal avec l'État, a décidé de commencer les négociations avec l'État. Du coup, ces espaces numériques, ces espaces que je vais réels, parce que je pense que les espaces numériques sont aussi des espaces réels pour ma part, puisqu'ici on y joue nos affects, on y joue nos communications avec les autres, et j'ai parlé beaucoup de choses négatives, mais c'est un endroit où si on apprend à le contrôler, on peut se retrouver ensemble, et ça peut recréer du local à l'international, ce qui est vraiment très intéressant. Et genre, c'est pour ça que le faire au Theta Lab, je suis vraiment heureuse, parce que c'est pas la question des algorithmes, la question de la maîtrise de la machine, je suis pas très pointue là-dessus, et j'aimerais que vous puissiez m'apporter des réponses là-dessus, puisque j'ai oublié début de ma phrase.
YouTube. Politique, matérialiste.
Non, ça c'est Facebook qui fait ça du coup. Et donc on en arrive à un point où la maîtrise de nos outils numériques devient primordiale parce qu'on subit un matraquage, une propagande constante. Et du coup, l'enfance, et même nous en tant qu'adultes, ça peut. C'est des risques de dérèglement très personnels. Parce que par exemple, Bernard Stiegler, le philosophe dont je vous parle, qui fait partie d'Ars Industrialis, parle des ikikomori au Japon, justement, là-dessus. Et lui, il analyse ça comme un dérèglement esthétique, c'est-à-dire qu'un surplus d'informations, un surplus d'images, un surplus d'attentes sur la personne va créer ce dérèglement profond qui va mener une personne à vouloir s'isoler totalement. En tout cas, c'est une analyse que lui, c'est comme ça qu'il l'analyse. Donc voilà, que faisons-nous avec nos outils pour éviter ce dérèglement profond qui pourrait nous arriver totalement dessus? Vous avez des choses à dire, des points de vue?
Moi, le truc que tu disais tout à l'heure à propos de YouTube et des influenceurs et tout ça, surtout à propos des enfants, j'avais entendu quelqu'un qui disait que son enfant, le soir, lui avait dit « n'hésite pas à souscrire » plutôt que « au revoir » ou « à demain » ou « bonsoir ». Et je trouve que ça replace beaucoup ce dérèglement dont tu parles.
C'est-à-dire que il y a un appétit d'apparaître qui est extrêmement fort, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la réalité. Et ce que nous offre la publicité, les réseaux sociaux, c'est un lien encore plus soi-disant rapide et clair pour pouvoir trouver un moyen d'apparaître coûte que coûte. Donc ça suit, moi ça ne fait que suivre cette nécessité de narcissisme en fait.
Moi je ne serais pas, il y a une certaine volonté de narcissisme c'est sûr, mais c'est aussi la façon dont on nous valide ces derniers temps, ces dernières années, c'est la validation, c'est de devenir un individu montré aux autres en fait. C'est un peu genre être connu, c'est ce que tu dis, mais est-ce que ça vient vraiment d'une volonté profonde de l'humanité ou est-ce que c'est la structure, moi c'est ce que je me pose comme disons, c'est...
Est-ce que c'est la structure? Je dirais pas que ça vient d'une volonté, je dirais plus que ça vient d'une bêtise profonde de l'humanité, et tout le monde se met ok sur cette bêtise en fait. Et avoir des espaces comme celui-là permet de bien voir qu'il y a d'autres souhaits qui nous importent aussi.
Les dark patterns des interfaces, ou là en l'occurrence de la façon de ce qui est mis en avant, bien sûr que ça joue sur des mécanismes psychologiques, mais ça va beaucoup par exemple les accentuer. Le fait de voir tout le monde autour de soi ou autour d'Internet, être entièrement, uniquement dans le paraître, ça peut... Quelqu'un qui ne serait pas naturellement... qui n'aurait pas spécialement tendance à vouloir faire ça, va quand même le faire parce que c'est ce que tout le monde fait et du coup, pour être socialement intégré, c'est ça que tu passes.
Bonjour.
Oui,
je suis arrivée super à la fin. Mais du coup, je reprends la balle au bon comme ça, et par rapport à tout ça, moi j'ai une notion que je mobilise souvent de marxiste, c'est la question que la nature humaine, en fait, elle est pas donnée, elle est construite socialement. Et en fait, et aussi, je mobilise aussi le concept aussi pareil de nature humaine de Serge Moscovici, qui dit quelle nature humaine on veut créer, en fait. Et celle qui nous est proposée aujourd'hui, en fait, en tout cas, il y a certains théoriciens qui disent que le capitalisme est une épine dans le pied justement du développement humain. C'est un blocage dans tous les potentiels qu'on pourrait développer. Et il utilise bien sûr, il s'appuie sur des choses qui sont profondes et qui sont sélectionnées en effet par la nature, la question du mimétisme. Si on n'était pas agi par du mimétisme, on n'apprendrait pas à parler. Enfin voilà, il y a des recettes qui font fleurir. Et je pense que là, il y a la question de que les solutions, comme que la solution elle est individuelle, en fait, que chacun on devrait repartir de l'individu, et c'est par l'individu qu'on va se sauver, et que en fait pour moi il me semble que c'est l'apologie de l'hyper-individualisme, c'est la lutte de tous contre tous, c'est la question, c'est le marché, en fait, le marché c'est la mise en concurrence de tous contre tous, au contraire que le commun. Et que de fait, on développe une hyper-individualité ou l'existence à partir de l'individu, parce que justement, on a un manque flagrant du commun et de ce qui fait commun, et où on pourrait dissoudre un peu de cette individu dans le commun. Et donc le truc, c'est que voilà, d'où l'intérêt des collectifs, de se dire que la solution, elle n'est pas dans l'individu ou dans l'hyper-exposition de petites choses. Mais qu'en effet, ça fait partie du système de nous individualiser et de nous mettre en concurrence avec tous en continu, quoi. Et les dérèglements esthétiques de ça, c'est... Moi, je connaissais pas ce concept, mais c'est pertinent, c'est bien.
Il en parle aussi, mais il n'est pas le seul, en fait. Moi, je relis ça, ce dérèglement esthétique, avec le dérèglement environnemental et écologique, en fait. Ça vient de part avec la surproduction d'images, par la surconsommation et tout ça. Mais surtout que, du coup, c'est un peu ce que tu expliquais, c'est genre ce matraquage-là, il vient dérégler nos environnements et du coup nous dérégler aussi. Et là, si ça vous intéresse, ça, il y a le concept d'écosophie de Guattari, qui du coup, l'écosophie est composée de trois écologies, du coup l'écologie environnementale, qui se rapporte à ce qu'on appelle l'écologie en général, l'écologie sociale, qui est justement le fait d'être en dehors, enfin, de savoir qu'on est un individu, de savoir qu'on est un jeu, mais de pouvoir se composer en tant que nous et de savoir qu'on peut être un collectif. Et du coup, la troisième écologie, c'est l'écologie mentale, c'est-à-dire comment on traite les personnes qu'on appelle malades mentaux, enfin qui sont pas similaires à nous, enfin pas similaires à des gens dits normales.
Dans cette idée,
c'est que juste appeler les gens. Justement, que dans nos vocabulaires on dise des gens normaux et des gens pas normaux, ça vient d'un gros combat historique, en fait, aussi. C'est-à-dire, les pas normaux, un moment ou un autre, de ce que je présume de la fréquentation du THSF, historiquement, on l'a tous été, un moment. Surtout si vous êtes une femme. Genre, on n'était pas normal, c'était pas ça. Et du coup, tout ça pour en revenir à ces trois concepts qui sont... Et du coup, quand t'as une caméra frontale sur ton téléphone qui te propose de prendre en photo tout le temps, forcément, je vais prendre mon exemple personnel, je déteste faire des selfies, je supporte pas faire ça, et pourtant, heureusement, elle s'est pétée, mais genre, une fois que j'ai eu ça entre les mains, alors je me suis mis à me prendre en photo n'importe comment, n'importe quand, alors que c'est pas... Enfin, puis même, c'est... Tu te retrouves avec... vu que je m'inscris pas sur Instagram et tous ces trucs-là, parce que sinon, ça me fait péter des câbles. Et tu te retrouves avec des galeries de photos où t'as des photos de toi qui tirent la gueule ou des trucs comme ça, et c'est même pas une démarche d'autoportrait, c'est juste une sorte de volonté de se voir et de se représenter, et qui est pas totalement réfléchi, alors que bon, bah, je suis en voie d'être quelqu'un qui fait des choses artistiques, du coup j'aime bien réfléchir à ce que je fais dans ce sens là je veux dire, et genre ça paraît être quelque chose qui devrait être fait, de réfléchir à quand on se prend en photo, ou au moins pas forcément le réfléchir en le théorisant, mais au moins prendre conscience de son acte, savoir qu'on est en train de le faire et qu'on est en train de se prendre en photo. Et ça, bon, Enfin voilà. Après, tu scrolles ta galerie et t'as genre 15 photos de toi, tu sais pas trop comment c'est arrivé. C'est ridicule. C'est... Enfin, en tout cas, moi je trouve ça ridicule.
Et en même temps, il me semble que ce truc, c'est un désir de reconnaissance. Et que finalement, le regard qu'on porte sur soi, c'est celui qu'on voudrait que peut-être les autres portent sur nous, mais de façon bienveillante. Donc en fait, là, c'est toujours pareil, c'est la question de que nous, historiquement, de là où on vient de la mode, de la tribu, du clan, de la communauté, des petits cercles de reconnaissance, avec des liens très forts. Maintenant, on a une diversité de liens faibles, et ça, du coup, il faut temporiser tout ça. Donc, la technologie n'est pas neutre. Murray Bookchin, voilà, il a analysé dans les thèses de l'écologie sociale aussi les questions de la technologie. Et comme tu dis, le jour où tu as eu le téléphone, t'as fait les photos. C'est-à-dire qu'à un moment, le téléphone, il est là aussi pour détourner, en tout cas pour agir sur toi, sur tes actes et sur tes vraiment de production esthétique.
Surtout qu'on vend de moins en moins de téléphones sans caméra frontale. Ce qui pourrait être un choix dans le choix de cet outil. On pourrait choisir. Enfin, ce serait évident de pouvoir choisir. Mais vu que sûrement ils ont fait des analyses de marché où en mode ça se vend plus quand il y a des caméras frontales,
etc. Et là du coup je mobilise une autre théorie qui est la question de la travail de consommation. Il y a un travail de production dans lequel on est impliqué, on est sauvagement accaparé, assigné, mobilisé par la production. Et tout le temps qu'on croit qu'il est libre, etc., en fait c'est du travail de consommation. Et en fait c'est ce que le sociologue là, italien appelle le travailleur du clic, etc. C'est que quand tu prends la photo, en fait, tu travailles, et quand tu mets la photo sur la plateforme, tu travailles à la valorisation boursière de quelqu'un. Et donc, ça s'appelle la création de la valeur. C'est marxiste, encore une fois, c'est la valeur. Donc, tous les actes esthétiques de ta vie vont produire de la valeur. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Mais la valeur, pas pour toi, hein, pas pour les capitalistes et pour les autres.
Oui, mais ça, justement, je ne sais pas si c'est là, mais c'est l'économie libérale qui est là-dessus. Je sais pas, je t'entends après, si vous voulez, vous allez rester tranquille. Merci beaucoup.
Merci.